La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est le moment de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Créer un microclimat qui répond avec précision aux besoins des plantes, c'est la solution Elisabeth avec Ombrea qui va faciliter la vie des agriculteurs.
Et oui, parce que Ombrea protège des aléas climatiques, la sécheresse, la grêle, la canicule, la pluie, parce qu'à cause de ce réchauffement climatique, les horticulteurs, les maraîchers ou encore les vignerons dépendent encore plus de la météo dans leur quotidien. Ombrea est née en 2016 à Aix-en-Provence et l'objectif c'est donc de sauver les cultures sensibles aux variations de la météo. Comment ? En installant des ombrières connectées capables de gérer l'ensoleillement au degré près. Bonjour Julie Davico.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale d'Ombrea. Vous étiez journaliste, une histoire un peu particulière puisque vous étiez journaliste et en 2016, votre père qui est agriculteur a tout perdu à cause de la sécheresse.
Ouais, exactement, et c'était pas le seul, puisque toute ma famille travaille justement dans le milieu agricole. Ça a été un électrochoc pour nous. L'été 2016, un quart de la production qui part en fumée à cause d'un épisode de sécheresse. À partir de là, on cherche à s'organiser, on cherche à se procurer justement un outil qui pouvait nous permettre de continuer à produire dans des bonnes conditions. Et en fait, on l'a pas trouvé cet outil. Donc on
il
a dit,
mais
bah non, il n'existait pas, parce que vous avez des serres par exemple, mais les serres sont adaptées à des cultures qui poussent sous serre. Elles ne sont pas adaptées aux cultures de plein champ, comme la vigne, par exemple. Donc, en fait, cet outil, comme on ne l'a pas trouvé, on a décidé de le créer. On a lâché tous les deux nos jobs et puis on s'est vraiment lancé. Mon père et moi, Christian, on a cofondé donc du coup la structure et on est hyper complémentaires parce que lui, il est issu du milieu agricole, donc il connaît les problématiques que vivent les agriculteurs. Ça a été un vrai atout.
Et comment vous l'avez mis au point, alors, ce dispositif, cette ombrière connectée ?
Bah déjà, on est parti des problématiques du terrain. On savait que les plantes avaient besoin justement d'avoir un microclimat. Un microclimat, c'est quoi ? C'est en fait tous les paramètres justement climatiques adaptés à leurs besoins au bon moment. Donc en fait, on installe ces ombrières au-dessus de ces cultures. Le système va s'ouvrir et se fermer pour moduler l'ombre au sol. Et en modulant l'ombre, on va pouvoir ajuster la lumière, la température, l'humidité. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter à la plante au bon moment tout cet écosystème dont elle a besoin pour grandir dans des bonnes conditions, ce que le climat ne permet plus du tout de faire aujourd'hui.
Donc ça permet quoi ? De moduler l'ombre pour apporter aux cultures tout ce dont elles ont besoin ? C'est ça ? Ça module ouais. L'ombre au fur et à mesure de la journée ?
C'est ça, au moment de la journée, en fonction des saisons, en fonction de ce qui se passe sur une parcelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on ne fait pas des parasols géants. Faire de l'ombre, c'est pas suffisant en fait, c'est pas si simple.
Il y a l'intelligence artificielle qui entre en jeu.
Exactement, l'IA en fait, l'intelligence artificielle va permettre justement de savoir de quels paramètres climatiques telle plante a besoin dans tel ou tel cas de figure et d'avoir une forme d'anticipation aussi, c'est ça qui est très intéressant.
Comment est-ce que vous les collectez, ces données qui vont aller renseigner l'ombrière ?
En fait, on a des capteurs. On a une dizaine de capteurs qui sont installés sur chaque parcelle. Pour vous donner un chiffre, ces capteurs mesurent 1 million de données par an, par site, vraiment de la donnée météo brute. Cette donnée, elle va nous servir de base, en fait. Elle va nous dire voilà ce qui se passe sur telle parcelle à tel moment de la journée. Et ensuite, nous, on a des modèles qui savent, par exemple, sur la fraise, on sait que la fraise, dans tel ou tel cas de figure, a besoin de tel ou tel paramètre pour grandir dans de bonnes conditions. On met en perspective ce dont on sait que la fraise a besoin avec ce qu'on collecte sur le terrain. Et ensuite, l'outil va s'activer en fonction de ses besoins.
Notre coach, Jean-Christophe Sibéras.
Ah oui, je suis impressionné parce que je me dis, imaginons une ferme où on est connecté à des terrains qui peuvent être d'ailleurs très loin. En fait, vous pourriez contrôler, ombrer des. Donc en fait, ça peut être une entreprise énorme ce que vous êtes en train de faire parce que vous pourriez proposer ce service à de très nombreux agriculteurs, pas seulement d'ailleurs en France. Ça pourrait être adapté à des pays différents puisque vous faites c'est connecté à distance. Donc en fait, potentiel peut être considérable en fait.
Bah, c'est ce qu'on remarque. On sent qu'il y a vraiment une appétence très forte de la part du monde agricole. Mmh. Nous, on commercialise la solution depuis un peu plus de 6 mois. On a aujourd'hui le carnet de commandes qui se remplit très très vite. On est passé à 27 personnes. Là, en un an, on est passé de 6 à 27, quoi. Voilà. Donc, il a fallu se structurer très vite.
Et vous avez de la concurrence?
Oui, on a une forme de concurrence, mais ça va être un peu d'un autre temps. Vous allez avoir, c'est un peu les outils dont je parlais qui étaient très incomplets. Les serres ne sont pas des concurrents parce qu'on traite les cultures de plein champ. Ça va être des ombrières fixes. En gros, les agriculteurs doivent sortir leurs filets, les installer eux-mêmes manuellement sur les cultures. Ça ne s'adapte pas aux conditions climatiques en réel. En fait, nous, on a inséré de la technologie dans des outils qui existaient déjà, certes, mais en adoptant justement des outils techno.
Jean-Christophe.
Oui, mais alors les particuliers, enfin j'ai un jardin moi, c'est compliqué les jardins, des fois on a des plantes qui poussent pas ou qui y a trop de soleil, etc. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une offre aussi pour des, pas seulement les agriculteurs, mais aussi des particuliers, comme tout un chacun?
Bah, c'est hyper intéressant, évidemment, nous on est jeunes, hein, donc on est vraiment spécialisés dans l'agriculture, ouais. On s'adresse vraiment aux clients agriculteurs, il y a déjà
énormément
les vignerons,
hein. Il y a beaucoup de choses avec les vignes. Hein.
Oui, la vigne c'est incroyable ce qu'on peut faire sur la vigne, on arrive à jouer sur les arômes aussi des vins que l'on va pouvoir produire, rien qu'en justement en maîtrisant le climat, c'est absolument fascinant. Donc on y viendra peut-être un jour, mais en tout cas c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui immédiatement. Je rajouterai une application que l'on a créée justement, vous parliez tout à l'heure de fermes connectées, d'avoir du suivi pour les agriculteurs, c'est très important ce que vous dites, parce que les agriculteurs se sentent souvent isolés. Oui. Nous, ce qu'on propose en plus de ce service-là, c'est sur leur application, ils vont pouvoir avoir accès à tout ce qui se passe sur leur parcelle. Donc, ils ne seront pas obligés d'aller sur site pour savoir ce qu'il en est. Ils auront tout ce suivi-là sur leur téléphone le matin.
Et dernière question, vous travaillez sur toutes sortes de surfaces. Au début, vous aviez démarré sur un hectare et là, c'est...
On avait même commencé sur encore plus petit. C'était sur du 3000 m². On peut toujours, effectivement, toujours de la demande sur 3000 m². Mais aujourd'hui, on enchaîne les partenariats avec des grands comptes, notamment, ce qui nous permet en fait d'avoir une réactivité, que ce soit sur 3000 m², 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, voire plus. Et aujourd'hui, on est vraiment capable de répondre à n'importe quel agriculteur qui vient nous voir.
Bravo, en tout cas, ça s'appelle Ombrea. C'est la solution aujourd'hui sur Europe 1. Il est 12h58.
Europe 1.
Restez avec nous, le dossier du jour est consacré au vélo. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous y mettre et vous allez voir qu'il y a de plus en plus d'idées qui émergent. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans La France bouge. Ici, on vous écoute, on vous regarde changer votre mode de vie. On essaie aussi à notre manière de vous apporter des réponses et de vous montrer des initiatives, des projets qui sont en train d'éclore et qui vont s'imposer, et oui, dans les années qui viennent. Aujourd'hui, c'est de vélo que nous avons choisi de vous parler parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous déplacer en deux roues et que c'est la semaine du vélo. Et parce que le sujet aussi s'invite de plus en plus dans les campagnes électorales. Or, il y a des acteurs qui, toute l'année, ont compris que le vélo était en train de regagner ses lettres de noblesse. C'est votre cas, Paul-Adrien Cormeret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs de Pony, Pony P-O-N-Y. Votre société est basée à Angers. Et ça fait 4-5 ans que vous avez en tête ce projet Pony.
Ouais.
Ce qui vous a conduit d'ailleurs à quitter votre travail, puisque vous étiez dans la banque au
Exactement.
Départ.
Exactement.
Pony, c'est quoi? C'est un opérateur de plus sur le marché des vélos. Vous êtes présent à Angers, à Bordeaux. Racontez-moi comment est née l'aventure.
Alors, Pony, c'est vrai que c'est un peu un alien, parce que c'est un modèle complètement unique. Alors, c'est vrai qu'on est un opérateur. On met des véhicules que l'on fabrique, que l'on met dans la rue pour que les gens puissent les louer à travers une application. Et donc ça, c'est vraiment l'idée fondamentale, c'est celle-ci. C'est que le vélo, vous l'avez dit, il est en train de s'imposer. C'est vraiment rapide, c'est vraiment facile, c'est vraiment pratique. Par contre, c'est pas tout le temps facile d'en avoir un chez soi, de le garder, de pas se le faire voler, de le maintenir. Et pourquoi pas finalement pouvoir prendre des vélos qui seraient dans la rue, voilà, quand on en a besoin, et les laisser quand on est arrivé. Donc ça, c'est l'idée originale, ça fonctionne avec une application. Je scanne le QR code du vélo, le vélo s'ouvre, je fais mon trajet. Quand j'ai terminé, hop, je prends une photo pour montrer que je suis bien garé et ma carte bleue est facturée. Et je peux continuer ma journée.
Donc ça, c'est le vélo qu'on connaît tous aujourd'hui dans les grandes villes.
Exactement.
Et c'est les villes moyennes.
C'est les vélos partagés qui, en fait, sont surtout maintenant les trottinettes qui font ça. Les vélos un peu moins, malheureusement. Et en fait, c'est vrai que nous, on essaye de reconstruire un peu ce modèle, mais avec une approche différente. Pourquoi ? Parce que quand on a lancé ce type de système, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de problèmes de vandalisme, beaucoup de problèmes de casse, et même parfois un rejet en fait d'une grande partie de la population, de ce qui est pourtant une idée hyper bien. On va partager des vélos entre tout le monde, pourquoi pas? Et en fait, on voit des gens qui vont aller casser ces vélos, mettre de la peinture sur les codes pour pas qu'on puisse les ouvrir. Et donc, on a vraiment essayé de se dire, ok, ces idées de partager vélo, en fait, ça fait longtemps que ça existe. Avant même ces applications, il y avait des systèmes dans les années 60, où on avait, avec des qui mettaient des vélos à disposition de tout le monde et tous ont échoué à cause du vandalisme. Et comment on adresse ça? On adresse ça avec un modèle différent. Nous, ce qu'on fait chez Pony, c'est que chacun des vélos qui est à disposition dans la rue appartient à un particulier, un habitant de la ville qui l'a acheté. qui en est vraiment donc le propriétaire. On dit qu'il a adopté un pony, et donc il l'adopte. Il lui donne un petit nom, Joy Jumper. C'est le sien. À chaque fois que quelqu'un s'en sert, l'utilisateur va lui dire voilà, bah écoutez, c'est Joy Jumper, c'est le vélo de Pladrien, et il a déjà fait 2 trajets aujourd'hui. Prenez-en soin, dites-nous s'il y a quoi que ce soit. On crée comme ça du lien, de l'affect et du sens à ses services. Et pour le propriétaire, vous recevez une notification, Joy Jumper fait un trajet, vous le voyez se déplacer. À la fin du trajet, 2 €, il y en a 1 €, c'est directement sur votre compte en banque. Et donc, ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on crée de la proximité, on crée du sens et on responsabilise les usagers et on adresse une grosse partie de ces problèmes de vandalisme.
Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous allez plus loin. C'est-à-dire que vous avez eu une idée assez ingénieuse, j'avoue, créer le double pony, donc le double Jolly Jumper. C'est-à-dire un vélo 2 places construit chez nous, en France, par votre société.
Ouais, exactement. L'idée, c'est vraiment de se dire, ces services, il faut qu'ils puissent remplacer la voiture.
Donc, je peux mettre Elisabeth sur mon porte-bagages.
Exactement.
Allez, on est parti.
Vous parliez du vélo qui s'invite en politique et il n'y a pas longtemps, on a eu un peu cette polémique pour les gens qui suivent la campagne à Paris de comment on va chercher des enfants à l'école. Et bien voilà, c'est vrai, c'est une vraie question. Il ne faut pas non plus la mettre de côté et on le fait en fait avec des vélos cargo. Et ces vélos, ils se sont imposés en Allemagne, ils se sont imposés dans les pays scandinaves et on les connaît trop peu en fait en France. Et ce qu'on a essayé de se faire, c'est de faire du coup le premier vélo cargo conçu spécifiquement pour la location, pour le partage. Donc c'est un vélo extrêmement robuste qui supporte 250 kg de charge. Et vous l'avez dit, il ressemble en fait à un vélo classique un peu rallongé sur lequel à l'arrière il y a en fait un siège dédié hyper confortable, une poignée pour se tenir, des cale-pieds et qui permet de prendre un adulte, un enfant, des courses sur les côtés.
Comme quand on chalait quelqu'un en scooter
Était un peu plus jeune. C'est exactement ça. Et vraiment l'idée, c'est en mettant ces vélos en partage dans la rue, faire découvrir en fait le pouvoir en fait réellement de ces vélos cargo, tout le potentiel et faire prendre conscience à des gens qu'en vrai, vous pouvez amener vos enfants à l'école à vélo et c'est une expérience fantastique.
Ça vous tente, Jean-Christophe, notre coach?
Oui, enfin, maintenant mes enfants, je crois que j'aurais du mal à les porter sur mon vélo, mais non, c'est quand même des vélos électriques ce que
exactement.
Vous faites. Donc un vélo cargo, du coup, ça met plus de temps à se recharger parce que c'est plus lourd.
Ouais.
Alors, vous avez raison. Double batterie, non?
C'est ça, c'est un vélo électrique qui est équipé de 2 packs batteries. Donc quand on est seul, ça fait quand même 95 km d'autonomie. Donc c'est des vélos qui permettent de faire des longues distances. Et qui en fait vous fournit toute l'assistance nécessaire pour en fait voyager confortablement. Et c'est la grosse surprise des gens qui essayent le vélo long tail, comme on appelle ça, les vélos rallongés, c'est qu'en fait on sent presque pas le passager. Vous avez un adulte derrière, vous avez jamais fait de vélo votre vie, c'est comme s'il n'était pas là. Ouais. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est ça qui fait que vraiment en fait nous on est convaincus du potentiel et de l'importance de faire la démonstration de ce type de vélo.
Elisabeth, on s'y met au vélo? Ça nous coûte combien si on a envie de s'y mettre?
On va s'y mettre, hein. On est obligé là. C'est l'enjeu.
C'est un des enjeux de la campagne municipale,
hein, notamment à Paris. Hein. C'est difficile à chiffrer, mais d'après l'Observatoire du cycle, le prix moyen d'un vélo, il est très différent chez un détaillant, en moyenne 1 300 €, et dans une grande surface sportive, où là, on peut en trouver des 200-225 €. Donc, ce sont des sommes qui sont importantes, mais pour ceux qui savent rouler tranquillement hein, et sans trop s'exciter, il est possible de trouver de l'entrée de gamme à des vélos à un peu plus de 100-150 €. Les cyclistes qui voudront, eux, aller un petit peu plus vite et avoir un peu plus d'énergie devront se tourner vers des vélos tout chemin, vers des VTC ou vers des VTT. La note, dans ces cas-là, va alors grimper, puisqu'il faut débourser au moins 300 € pour ces modèles, soit à peu près le prix des entrées de gamme un peu plus, où on va un peu plus énergique. Ceux qui aiment la vitesse et qui veulent s'offrir un vélo de route, là, devront débourser au minimum 600 €. Donc, il y en a vraiment pour toutes les bourses et surtout selon les besoins.
On reste ensemble et on continue à pédaler aujourd'hui. Il est 13h19.
Europe 1.
Avec les livraisons qui se multiplient en ville, le vélo est de plus en plus plébiscité aussi. Alors à Toulouse, on a créé le vélo camionnette. A tout de suite.
Dans la France bouge cet après-midi, on parle du vélo. On se déplace de plus en plus en vélo en ville, notamment pour se rendre au travail ou même accompagner ses enfants à l'école. Alors si c'est votre cas, dites-le nous, partagez votre expérience en nous écrivant sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921 Raphaël.
Vous avez déjà tous vu des livreurs circuler à vélo ou en scooter électrique hein, d'ailleurs. Eh bien, une entreprise a eu l'idée de créer un nouveau vélo pour remplacer, devinez quoi, la camionnette. Bonjour Thomas Chenu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de VUF, V-U-F. Et votre histoire, alors elle commence en 2014, je crois, peut-être même un peu avant, quand vous travailliez à l'époque dans un cabinet de conseil dans l'environnement et qu'un de vos clients qui collectait et valorisait les huiles alimentaires vous a demandé de réfléchir à une solution plus vertueuse.
Tout à fait. Donc ça démarre en 2014. On part d'un constat, nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'offre de vélo aujourd'hui utilitaire, à l'époque, en 2014, n'est pas adaptée au transport de charges de volume important. Et que cette même offre de vélo utilitaire part en fait d'un constat, c'est-à-dire on part d'une conception pour répondre à un besoin, alors que pour nous, c'était l'inverse, il fallait aller du besoin vers la planche à dessin. Raison pour laquelle en fait on consacre 2 années de notre entreprise à tester tous les vélos cargo du marché, d'identifier en fait les aspects techniques, géométriques, cinématiques de ces vélos-là.
Et il n'y a rien qui...
Il n'y a rien qui marche.
Qui correspond.
L'idée, clairement, c'est de tracer portrait robot du vélo utilitaire assistance électrique idéal. Donc, au bout de ces 2 années, on conçoit le VUF, donc qui est vraiment le fruit d'un travail.
Ça veut dire quoi, le VUF ?
Le VUF, c'est l'acronyme de vélo utilitaire français. On D'accord. a vraiment une ADN aujourd'hui, vraiment made in France. On assemble, on fabrique, on fait tout en France. Et c'est très rare aujourd'hui d'avoir des vélos 100% français.
Alors, il a quoi de particulier ce VUF pour qu'il soit vraiment, qu'il coche toutes les cases ?
Alors, il y a 2 innovations, clairement, dans le VUF. La première, c'est la modularité. C'est-à-dire que c'est un vélo, aujourd'hui, qui peut transporter, donc il y a des versions avec des caisses. On peut transporter jusqu'à 100 kg et quasiment 400 litres de volume utile. Et si on a besoin de transporter plus de poids et plus de volume, on enlève la caisse, parce que c'est une caisse amovible, et on accroche, on attelle une remorque, et là on peut transporter jusqu'à 2 mètres cubes et quasiment 300 kg. Vraiment l'idée, nous, c'est qu'on positionne le vélo comme une alternative aux véhicules utilitaires légers en centre-ville, et on répond à tous les usages, qu'on transporte du colis, du frais, du sec, du réfrigéré ou même des déchets, on trouvera toujours une solution chez VUF.
C'est la boîte finalement qu'on vient ajouter qui va changer, qui peut être réfrigérée par exemple si
Exactement.
Besoin est.
Exactement, on a une base, c'est un vélo, c'est notre châssis et en fait sur lequel on vient atteler, on vient moduler des caisses, des aménagements. Donc c'est du sur-mesure vraiment en fonction de l'usage et de la spécificité vraiment du besoin.
Ça n'a pas été simple, hein, je crois, de faire accepter le projet. Il a fallu du temps, de la persuasion. Il a fallu aussi vous faire financer. Là, c'est la Green Tech qui est intervenue puisque vous avez gagné un concours.
Tout à fait. On a été vraiment suivi par de nombreuses collectivités. La Green Tech verte du ministère de l'Environnement, la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine qui pousse vraiment notre concept. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on s'adresse à des sociétés ou des collectivités dont les usagers, clairement ceux qui vont utiliser le vélo, on leur dit, bah, écoutez, traditionnellement, vous étiez avec des véhicules utilitaires, vous étiez au chaud, vous écoutiez Europe 1 le matin,
J'espère bien.
À l'abri.
Mais ils peuvent le faire aussi sur le vélo.
Demain, vous serez sur un vélo. Et donc, clairement, il y a une notion d'acceptabilité qui est un peu plus compliquée. Mais qui commence vraiment à évoluer. Et on a pu le constater récemment avec les grèves des transports qu'il y a pu avoir sur Paris. On a eu vraiment une recrudescence de l'utilisation de nos VUF.
Mais alors, qui sont justement vos clients aujourd'hui ?
Donc, nos clients, en fait, nous, clairement, toutes les sociétés, les collectivités qui travaillent en centre-ville avec des véhicules utilitaires légers, comme je vous l'ai dit, qui transportent du frais, du sec, du réfrigéré, du chaud, demain pourraient être des clients du VUF. Donc aujourd'hui, nous, on a des collectivités, on a la collectivité de Paris, on a des collectivités comme Strasbourg, on a des collectivités à Alexandrie en Égypte qu'on a comme clients, mais aussi on a des sociétés qui font la livraison de pâte au repas, de colis, qui collectent des déchets. Clairement, en fait, on a une multitude de clients et aujourd'hui, donc, on répond à tous ces besoins.
Jean-Christophe, notre coach.
Alors, ce que je comprends, c'est que c'est un vélo électrique quand même, aussi. Oui. Hein, on est bien là-dessus.
Oui, on ne pédale pas. Enfin, on pédale, mais on est aidé.
Les charges. Mais alors, il n'est pas dans la rue, comme on ne prend pas comme ça. Il faut aller le chercher quelque part. Ce n'est pas un vélo qui est,
il est
laissé
pas
quelque
service.
Part.
Voilà. Ouais,
comment ça fonctionne concrètement?
Exactement.
Là,
en fait, on a un modèle économique qui... donc, soit c'est de la vente directe, soit c'est du leasing. C'est-à-dire qu'on s'adresse directement à nous. Nous, on est constructeur, clairement, tout comme un constructeur automobile. Et nos vélos, soit vous les trouvez chez nous, ou soit, clairement, vous allez dans des revendeurs, des vélocistes qui commencent à se mettre au vélo cargo pour répondre à des besoins de petits artisans aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le...
Mais alors, on les achète ou on les loue ?
Alors, aujourd'hui, clairement, 90% de notre modèle économique est basé sur la vente. Il y a très peu de leasing. Voilà.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé des vélos chariots aussi.
Oui, des vélos chariots 100% français. Le vélo chariot, il répond à ce besoin quand on vit en ville et qu'on a besoin de transporter ses affaires, ses vêtements, sa sacoche de travail. Eh bien, des deux Français à La Rochelle ont imaginé, conçu et font fabriquer tout en France un vélo qui s'appelle Up. HUDPE. Upbike.com si vous voulez aller le regarder. C'est un petit vélo, donc pratique, pas encombrant, qui permet de circuler facilement, et à l'intérieur on peut ranger sous la selle au niveau du cadre, sans gêner le cycliste pour pédaler. On a un espace de rangement pour stocker un maximum d'affaires, et donc c'est très pratique quand on circule à vélo en ville.
On reste ensemble et on continue à parler vélo aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et si notre vélo devenait encore plus écolo, c'est possible grâce à Wello. Pour savoir comment, vous restez avec nous, branchés sur Europe 1, bien sûr.
Créateur d'entreprise, lancez-vous, la France bouge avec BNP Paribas. Et c'est le vélo qui est à l'honneur dans la France bouge cet après-midi. Vous en êtes adepte? Eh bien, dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou appelez-nous au 3921. Et le vélo, Raphaël, c'est écolo.
Oui, c'est vrai. Et vous allez voir que parfois, on commence tout petit à faire du vélo et que ça nous poursuit quand on a cette passion, passion des véhicules. C'est ce qui n'a jamais lâché notre prochain invité. Bonjour Arnaud Choreau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et président de Wello. Alors, Wello avec un W-E-2-L-O. Et alors, je disais que ça ne vous avait jamais lâché parce que vous avez commencé à fabriquer, vous, des petits véhicules avec votre grand-père quand vous étiez petit.
Oui, tout à fait. En fait, je suis ingénieur aéronautique de formation et j'avais commencé dès tout petit, vers l'âge de 10 ans, à concevoir des petits véhicules dans l'atelier de mon grand-père. On s'amusait à ça avec mon frère et l'envie par la suite, après de premières expériences professionnelles dans l'industrie et dans l'innovation, de pouvoir développer une nouvelle solution urbaine, compacte, agile, solaire et connectée.
Oui, parce que vous avez travaillé dans le sport auto, dans l'aérospatial, dans le offshore, et voilà, puis vous êtes revenu à vos premières amours.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc on s'est dit qu'il fallait répondre à un besoin. En fait, on est parti d'un constat que ça ne servait plus à rien aujourd'hui de déplacer un véhicule d'une tonne 5 pour transporter un individu de 80 kilos. Que la plupart de nos déplacements urbains font moins de 3 à 5 kilomètres. Et puis on s'est rendu compte que se déplacer était un besoin fondamental de l'être humain, au même titre que manger, boire ou dormir. Donc on a développé le Wello, qui est un vélo cargo, caréné, qui protège des intempéries, qui est équipé de panneaux solaires en toiture, qui permet de transporter des marchandises à l'arrière, jusqu'à 80 kilos dans la version cargo. Il y a une version pick-up également qui existe pour les différents opérateurs, en industrie ou en entreprise, et donc dans les villes. Et puis une version family qu'on a présentée au CES en exclusivité,
ouais,
qui permet de transporter un passager adulte, à l'instar justement du vélo de chez Pony, ou deux enfants avec les petites ceintures de sécurité, en étant protégés des intempéries, puis en ayant la place pour un petit coffre pour quelques sacs à dos.
Donc vélo solaire, trois roues, hein, c'est ça?
Exactement.
Modulaire, compact, entièrement connecté, ça fait beaucoup dans un seul engin.
Oui, en fait, on s'est inspiré de certains pères de l'industrie automobile. Alors, en toute humilité, on a essayé de prendre exemple sur certains aspects de Tesla, qui dès le départ a conçu un produit entièrement connecté. Donc on a une quinzaine de capteurs, entre 15 et 17, fonction des configurations capteurs sur les Wello.
Et qu'est-ce qu'ils font,
qui permettent de remonter des datas, aussi bien côté utilisateur, savoir combien de photovoltaïque a été produit, quel a été le trajet, combien de CO2 a été économisé, quand sera la prochaine opération de maintenance. Donc on vise des opérations de maintenance préventive, mais également prédictive à terme. Et ces datas nous permettent également, d'un point de vue R&D, on est plusieurs à venir du sport auto, comme vous le disiez, dans l'équipe. Et donc tout ce qui est remonté de data est essentiel pour améliorer un produit. Et donc là, on sort une nouvelle génération de Wello sur lequel on a gagné une dizaine de kilos. Le Wello est
léger,
entre 75 et 85 kilos. Ce qui permet d'avoir un véhicule le plus efficace possible.
Alors, je vais rassurer tout de suite Jean-Christophe, c'est un vélo à assistance électrique, on pédale et ça se recharge avec le soleil?
Tout à fait. Donc, on a démarré à l'île de la Réunion, que oui, je salue d'ailleurs et je remercie tous les acteurs qui nous ont soutenus. C'est une île qui est assez formidable d'un point de vue environnemental et sociétal. Il y a un vrai vivre ensemble. C'est quelque chose qui est fondamental dans la culture de Wello, dans notre ADN. Et puis la culture sport auto également, avec Le Mans, où on est en train de s'installer maintenant. Donc voilà pour les différentes étapes, et le solaire qui permet de recharger les batteries pleinement à La Réunion et en métropole, fonction de la période de l'année.
Oui, alors quand c'est couvert, comment on fait?
Alors ça rechargera toujours de l'ordre de, en fonction du niveau de nuages, par exemple, si c'est couvert, 35%, voire 20% au minimum de la batterie. Il y a un autre intérêt à la recharge, en dehors du fait d'éviter de devoir brancher sa batterie, c'est aussi que ça préserve la batterie lithium. Les batteries lithium-ion n'aiment pas avoir des niveaux de tension bas. Et donc le fait de les recharger un petit peu en permanence permet de les préserver, d'augmenter leur nombre de cycles et de limiter le besoin de recyclabilité de ces produits qui sont des vrais enjeux environnementaux.
Mais on peut aussi les brancher pour pouvoir les recharger?
Pleinement, vous pouvez vous brancher sur une prise 220 ou dépluguer la batterie et la brancher chez vous, dans votre maison, dans votre bureau ou dans votre appartement.
Jean-Christophe, notre coach.
Alors, c'est pour bien comprendre, là aussi, on l'achète ou on le loue, ou les deux? Et si on l'achète, ça coûte combien?
Alors, je dirais les deux, mon capitaine, à l'instar de mes confrères présents sur le plateau. Donc, il y a la version pick-up, qui est de 4 900 à 6 900 euros en fonction des configurations, ce qui permet pour les professionnels d'avoir un retour sur investissement entre 12 et 18 mois par rapport à des véhicules thermiques ou électriques classiques. Et puis la version family, donc, qui a été présentée au CES et qui semble avoir plutôt plu aux différents acteurs, qui est à 7 900 euros.
Vous avez des choses encore, si j'ose dire, sous la pédale.
Oui.
Je crois qu'il y a des choses en préparation. Vous nous en dites un mot ou c'est top secret ?
On va garder quelques surprises pour les semaines à venir, mais on a signé des choses intéressantes la semaine dernière et on a eu la chance également au CES d'être sélectionné par un des 5 plus gros accélérateurs de la Silicon Valley. Donc notre objectif, c'est de, voilà, toute proportion gardée, de se concentrer sur nos marchés où Wello est né, de pouvoir dupliquer ce que l'on a fait en collaboration avec à nouveau les confrères Pony et VUF, parce que on travaille tous dans le même sens pour une mobilité plus saine pour nos villes d'aujourd'hui et de demain, pour la génération future.
Bien sûr.
Et donc, ces partenaires de la Silicon Valley devraient également nous permettre d'accélérer fortement sur certains sujets.
Bon, vous reviendrez nous en parler.
Donc, très vite.
C'est quoi les villes les plus cyclables, tiens, en France? Je suis sûre que vous avez trouvé ça, Elisabeth.
Mais oui, il y a la Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB, qui établit un classement. Évidemment, c'est Strasbourg qui arrive en première position en tête du classement des villes de plus de 200 000 habitants. Pourquoi Strasbourg? Parce que la capitale alsacienne reste tout de même un modèle en termes de pistes cyclables, puisque eux, ils font du vélo, ils ont 30 ans d'avance sur toutes les autres villes en France. Donc Strasbourg reste la première. Nantes et Rennes arrivent respectivement en deuxième et troisième position, avec une petite progression là, de Rennes. Et Paris qui passe, qui arrive juste après Rennes, ex aequo avec Bordeaux. Donc arrive Paris petit à petit est en train d'arriver à monter comme ça et
dans le classement
des villes les plus cyclables.
On reste ensemble et on continue à parler vélo aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend bien sûr 3921, Twitter, hashtag Europe 1 avec vos questions pour nos invités. Faites-vous du vélo? Avez-vous envie de vous y mettre? Quels sont les freins? La parole est à vous, bien sûr, sur Europe 1. A tout de suite. C'est le vélo qui est à l'honneur cet après-midi dans La France Bouge. Vélo dont on parle avec vos invités, Raphaël. Nous sommes avec Paul-Adrien Cormeret, cofondateur de Pony, Thomas Chenu, fondateur de VUF, et Arnaud Chéreau, cofondateur et président de Wello. Notre coach aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Sibéras, directeur des relations sociales du groupe AXA. Et évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Moi, je voudrais qu'on redise, parce que c'est important, vous fabriquez tous les trois en France.
Hein. Exactement.
On peut encore fabriquer des vélos français. Ça a été la petite reine à un moment donné, on était très fort. Aujourd'hui, on a un peu perdu notre superbe, mais vous êtes en train de faire revivre finalement une filière, Arnaud Chéreau.
Oui, tout à fait. On s'y efforce tous et il y a un véritable enjeu pour les territoires, comme on le disait il y a deux minutes.
Oui, parce qu'à La Réunion, c'est quand même assez fort.
Tout à fait. C'est ce qu'on disait, l'industrie du vélo permet de retrouver une industrie à taille humaine. Et donc cette capacité de pouvoir produire et assembler de manière nationale et avec un assemblage local.
Même chose pour vous, Thomas, du côté de Toulouse.
Exactement, on fabrique tout en France, un peu par la force des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques françaises, en tout cas dans le vélo cargo, qui était un marché en émergence, ne font pas assez de volume pour se permettre d'aller intéresser des fabricants étrangers. Le souci qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché français, on est en concurrence avec des vélos cargo qui viennent d'Allemagne et qui se font fabriquer, par exemple, à Taïwan. Donc, ils ont des marges de manœuvre au niveau des prix qui sont beaucoup plus intéressantes que nous. Donc, oui, on peut fabriquer en France, il n'y a aucun souci, mais il faudrait qu'il y ait une prise de conscience et une manière un peu de privilégier nos marques françaises sur des marchés français, quoi.
Oui, parce que ça a une incidence, évidemment, sur le prix, je suppose.
Tout à fait. On a le même prix public que nos concurrents allemands, mais par contre, en termes de coûts de production, on est assez haut. Donc, on fait moins de marge qu'eux.
Même chose pour vous, Paul
Adrien. Oui, c'est vrai que la production en France, c'est un vrai enjeu.
Vous êtes à Angers. Hein.
Ouais, nous, on est à Angers. On le voit en particulier avec le coronavirus, où il y a plein d'industries qui sont complètement paralysées parce que toute la supply chain est en Asie. C'est vrai qu'il y a des vrais enjeux. En fait, maintenant, on s'en rend compte de ramener la production en local. Et c'est vrai qu'il y a des écosystèmes qu'il faut construire, qui aujourd'hui sont un peu sinistrés quand même. Donc c'est difficile de faire en France, mais c'est vrai que ça s'améliore. Et je pense que voilà, on se bat tous à notre échelle pour essayer de ramener un peu.
Il y aura
de
des sursauts après cette crise.
Ben on l'espère.
Mmh. Mais alors, parce que en fait, un vélo, c'est un assemblage de pièces assez diverses. Il y a des pneus, il y a des tas de trucs, des selles, du caoutchouc. Ouais. Enfin, il y a plein de choses. Donc, quelle est la proportion de ce qui est fait en France? Il y a quand même quelques pièces, j'imagine, qui sont assemblées et qui viennent d'ailleurs.
Sur les pièces plastiques, etc., c'est vrai que tout ce qui est standard, il y a beaucoup de choses qui sont faites en Asie sur des très, très gros volumes. Donc ça, il n'y a absolument aucun moyen d'aller se passer de ça. Les vrais enjeux, si vous voulez, c'est quand on fait un vélo, on commence par faire un moule. Ce qu'on appelle un moule d'extrusion. À partir de ce moule, on fait des tubes. Après ces tubes, on va les tordre, on va les souder. C'est là qu'on a un cadre. Ensuite, on va le peindre et ensuite, on va mettre tout un tas de composants pour faire l'assemblage final. Et en fait, la partie qui est lourde en main d'œuvre, la partie qui a vraiment en fait de la valeur et qui permet vraiment d'innover, c'est un peu cette première partie de vouloir construire le cadre, l'adapter aux besoins et de savoir vraiment construire le produit qui vraiment on a envie de faire. Et c'est ça vraiment sur lequel il faut se battre à court terme. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, sur les composants un peu vanille, il y a pas de débat, c'est fait en Asie. Ouais.
On a quand même la Plastic Valley en France et ce serait bien qu'on puisse effectivement recommencer à produire notamment du plastique propre. Ici, chez nous, c'est en tout cas aussi un des enjeux environnementaux. On parlait insertion aussi, parce que c'est un des volets qui est intéressant dans ce que vous faites avec Wello.
Oui, tout à fait. En fait, au début de Wello, l'objectif, c'était d'avoir une solution pour un développement durable environnemental. Et on s'est rendu compte que, idéalement, il fallait que ce développement durable soit également humain. Les hasards des rencontres ont fait qu'on a rencontré Stéphane, que je salue, directeur d'un chantier d'insertion à Saint-Denis-de-la-Réunion, une structure solide et sérieuse. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble et se dire, cet assemblage, on peut le faire dans le cadre d'un chantier d'insertion et reformer des personnes éloignées de l'emploi aux métiers de la mécanique, du photovoltaïque et de l'électronique, qui sont des métiers porteurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a recruté il y a un an une des personnes qui sortait du chantier d'insertion, qui s'appelle John, que je salue également aujourd'hui.
Ouais, qui a 60 ans.
Voilà, on l'a recruté, il avait 59 ans, il en a 60 aujourd'hui. On a signé son CDI il y a 6 mois. Et il a des dreads jusqu'en bas du dos et humainement, c'est quelqu'un d'exceptionnel.
Je voudrais juste qu'on termine en disant un mot chez Pony, justement, parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Vous êtes en test en ce moment dans la ville de Bordeaux. Ouais. Et y a des choses prévues cet été, je crois, un triporteur aussi en test.
Alors c'est vrai qu'effectivement, encore une fois, nous, notre combat, c'est de faire découvrir un peu la capacité des vélos cargo au plus grand nombre. Et donc, nous, là, aujourd'hui, on a notre vélo longtail. Et dès cet été, effectivement, on travaille sur un triporteur donc, qui permet, lui, de prendre deux enfants. Et effectivement, pourquoi pas réfléchir à une alimentation solaire, puisque c'est vrai qu'à Bordeaux, c'est parfaitement adapté.
En tout cas, vous allez pouvoir peut-être créer des choses ensemble, tous les trois. Ouais, et vous reviendrez nous en parler ici, dans la France Bouge. On était ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci à tous.
Il est 13h46.
Europe 1.
Allez, avis aux gourmands, on va découvrir l'histoire des vrais macarons. C'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est au vrai macaron. Bonjour Pascal Delbeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez cette maison depuis 20 ans, hein,
Depuis 20 ans, oui, c'est ça.
En Touraine. Oui. Entreprise qui a été manifestement créée avant 1908, mais vous avez pu retrouver, je crois, une carte postale de cette date. Mais la recette, elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus ancienne. On remonte, jusqu'à 971, c'est
781,
ça
même.
781.
781. Et les premiers écrits pour les recettes étaient au XVIIe siècle. Mais vraiment, le biscuit a été créé en 781. Quoi.
Alors, ce biscuit, il a quelque chose de particulier et il a été créé dans une abbaye.
C'est ça, oui. C'est ça, l'abbaye de Cormery.
L'abbaye de Cormery, où vous êtes toujours?
Où je suis toujours. Alors, qui est un petit peu, je dirais pas en ruine, mais on essaye de remettre tout ça un peu au goût du jour. Mais c'est une très très belle abbaye et aujourd'hui, on la visite.
Alors,
cette abbaye, qu'est-ce qui s'y passe? Il y a des moines, évidemment, à l'intérieur. Ils essayent de gagner un petit peu d'argent et ils se disent on va créer un biscuit qui dure un petit peu longtemps, qu'on puisse garder 3-4 mois. Parce qu'à l'époque, il faut s'imaginer, hein, il y avait énormément de trafic maritime.
C'est ça, puisque c'était la quatrième abbaye de France. Donc, il y avait un gros trafic maritime sur la Loire et le Cher. Et donc pour que les marins puissent avoir des produits, il fallait inventer un biscuit qui tenait plusieurs semaines, quoi.
Alors, comment ont-ils fait pour inventer ce fameux macaron?
En fin de compte, c'était une préparation de poudre d'amande, et de blanc d'œuf. Et ils ont d'abord cherché les mélanges, en fin de compte. Ils ont cherché les mélanges pour avoir cette pâte. Donc ça a duré un petit moment. Et donc ils ont trouvé un mélange, mais le souci qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de forme.
Ah.
Donc les moines bénédictins, qui sont, je dirais, un petit peu comme moi, bien enveloppés, ont travaillé assez dur. Enfin, le moine pâtissier qu'il y avait à cette époque-là, a travaillé assez dur pour trouver une forme au biscuit.
Et il s'est endormi
sur la pâte. Et quand il s'est réveillé, il y avait la forme de son nombril. Et ça lui a donné l'idée de faire un biscuit rond avec un petit trou dans le milieu.
C'est comme ça qu'est né le vrai macaron. Alors, vrai macaron.
Oui, c'est ça.
Pourquoi vrai macaron? Il y a un vrai, un faux macaron?
Non, c'est parce qu'en fin de compte, on est deux entreprises sur Cormorial fabriquées. Et c'est juste pour différencier les deux entreprises, quoi.
Alors, comment vous découvrez cette entreprise et ses recettes et cette histoire? Vous arrivez en 1994 dans la région et comment
ouais,
vous faites pour vous passionner pour...
J'étais un peu passionné déjà par l'abbaye. Sur le au niveau de l'historique et ce monument qui est vraiment magnifique, quoi. Je me suis en fin de compte aperçu que il existait grâce au macaron. Il a été connu grâce au macaron. Et donc j'étais dans le village juste à côté et je me suis dit un jour s'il y a une des boulangeries à vendre dans le village, je veux faire des macarons, quoi. Et donc il s'est trouvé en 2000, j'ai racheté la boulangerie et j'ai racheté aussi le concept, puisque en fin de compte les anciens propriétaires vendaient le concept, puisque la recette des macarons est protégée aujourd'hui. On évite trop la divulguer, on essaye de se la garder pour nous.
Vous allez nous la donner à nous, non?
Oui, bien sûr. Je vais vous la donner. Mais quand je suis arrivé à Cormorie, le biscuit n'était pas connu comme il est connu aujourd'hui.
Pourquoi?
On n'avait pas prêté attention, en fin de compte, à l'importance.
On avait un trésor et on ne le savait pas.
Non,
on
ne faisait
pas connaître.
On s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir un biscuit qui a vécu aussi longtemps, qui a voyagé, puisqu'on a eu en Italie des traces du macaron de Cormorie en Italie, et se dire mince, je qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi. Et on a remis un petit peu toute la com au goût du jour, et on s'est trouvé à être un petit peu sollicité par les radios, par des chaînes nationales et internationales. Et un jour, on a eu la visite d'une chaîne japonaise qui est venue nous voir. Et cette chaîne japonaise est venue voir la fabrication, est venue nous poser des questions, est venue visiter l'abbaye. Et ils nous ont fait un reportage au Japon, enfin sur une grosse télé japonaise.
Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée de mettre du yuzu, par exemple,
dans vos macarons. C'est ça. Et puis l'écorce d'orange aussi, d'ailleurs, parce qu'on met un peu d'écorce d'orange. Et du coup, on s'est trouvé à être invité au Japon.
C'est comme ça que vous faites de l'international aujourd'hui.
Voilà, aujourd'hui, oui.
Que dit notre coach de cette belle histoire, Jean-Christophe?
Alors moi, j'ai envie de comprendre comment vous êtes arrivé là, parce que vous dites que vous avez racheté ce qui existait, en fait.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais c'est quoi votre histoire avant de... Qu'est-ce qui vous a amené là? En dehors de l'abbaye, vous avez mis l'abbaye, c'est clair?
C'est ça, oui, mais je suis pâtissier de métier.
Ah voilà, c'est
je suis
ça,
pâtissier,
d'accord.
Je suis pâtissier okay, boulanger. Et donc les macarons se font dans une pâtisserie boulangerie. Donc j'ai mon entreprise dans Cormorie, donc je ne vends pas que les macarons, mais aujourd'hui c'est une de mes meilleures ventes, quoi.
Comment vous fabriquez aujourd'hui de manière traditionnelle?
Toujours.
À la main?
Toujours à la main, oui. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, on nous voit travailler. Alors,
comment vous faites ? Combien de temps pour fabriquer un macaron ?
Il faut, alors aujourd'hui, on va dire, c'est plutôt en tournée de macarons qu'on fabrique.
Ouais.
Pour faire 600 macarons, il nous faut une heure. Donc voilà. Donc on a démarré il y a 6-7 ans, on faisait une tournée de macarons tous les 15 jours à peu près. Et aujourd'hui, on en fait 2-3 par jour.
Deux, trois par jour.
Voilà, ouais.
Aujourd'hui, le développement des vrais macarons, c'est comment vous l'envisagez ?
Alors, le souci qu'on a, c'est que c'est un produit frais. Donc, c'est un produit qui se conserve, mais pas éternellement. Donc, pour l'international, c'est un peu compliqué. Par contre, en France, oui, on commence sérieusement à développer. Et on a quand même quelques maisons qui viennent nous voir aujourd'hui pour proposer chez eux les macarons de Cormerie.
C'est les vrais macarons de Cormerie et c'est l'entreprise qui va bien. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Je vous en prie,
sur
Europe 1,
je suis sûre que ça a donné faim à pas mal de monde aujourd'hui. Merci à Jean-Christophe Sibéras qui était notre coach. Elisabeth, Céline, rendez-vous lundi.
À lundi, Raphaël.
Pour une spéciale municipale.
Oui, à lundi, Raphaël Duchemin. C'était La France Bouge avec BNP Paribas. Vous voulez créer votre entreprise, BNP Paribas est à vos côtés. Pour lancer le projet auquel vous croyez, rendez-vous sur lancez-vous.bnpparibas. À suivre, Christophe Ondelat qui vous raconte l'histoire de Guy Carlier, histoire tirée de son livre « -125 ». C'est dans un court instant sur Europe 1.